Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Capot Diamant et Québec Science. Au programme, des lits en Syrie. Et un étrange visiteur dans le Saint-Laurent. Bonne écoute!
Des lits en Syrie, comment des voleurs ont nourri la passion des collectionneurs. Un texte de Fanny Dionne, paru dans Capot Diamant, été 2022, numéro 150. Mon Dieu, bénissez ce projet. Écrivit le prêtre Wandat Prosper Vincent Sawatanin dans son journal intime le 2 septembre 1909. Il venait tout juste de prêter au docteur Miller, archiviste de New York, rencontré la veille, un dictionnaire manuscrit français Wendat, rédigé par des jésuites au tournant du 18e siècle, afin que l'Américain puisse en faire une copie au dactylographe. Miller a donné à Vincent $50 en gage pour cet emprunt. Le prêtre portait un grand intérêt à la culture et la langue de sa nation. Il était l'un des derniers locuteurs du Wendat et allait d'ailleurs 2 ans plus tard enregistrer ce rouleau de cire des chants hurons pour l'ethnologue Marius Barbeau. Miller semblait vouloir, en recopiant le contenu du dictionnaire manuscrit, préserver les mots Wendat pour la postérité, d'où probablement le bon mot de Vincent dans son journal. Les deux hommes se sont revus après cette rencontre et plus tôt que prévu. Le docteur Miller ne s'en tient pas à son contrat, la copie d'un seul manuscrit, souligne d'ailleurs le prêtre dans son journal. En effet, Miller est revenu voir Vincent dès le 3 septembre, souhaitant emprunter 2 autres livres et, quelques jours plus tard, des portraits en peinture des 4 chefs qui sont allés en Angleterre. Probablement un portrait de Nicolas Vincent Tsarenhoby, Stanislas Koska Haharathana, et Michel Tsewe Teasiendahe, qui ont rencontré George IV en 1825. L'archiviste américain demanda aussi des wampum et des médailles à Herménégilde, neveu de Prosper Vincent. Le prêtre avait raison de souligner, quoique brièvement, les incessantes demandes de l'Américain. Samuel Millington Miller étant un homme sans scrupules, plus intéressé par l'argent que la préservation de la culture autochtone, il n'allait jamais rendre le dictionnaire prêté par Vincent, préférant le revendre pour en tirer un bon prix. Le contexte de l'époque inspira et favorisa sans doute son entreprise. Utilisons donc le cas de Miller et d'autres afin de mieux comprendre la frénésie de collection au tournant du 20e siècle pour des documents et des objets du patrimoine autochtone ou concernant la Nouvelle-France. Patrimoine à vendre. À cette époque, Samuel Miller n'était pas le seul à cogner à la porte de personnes autochtones pour en tirer quelque objet. Pour malheur, les Hurons de Lorette ont vendu presque tous les objets précieux qu'ils avaient reçus de leurs ancêtres. S'il m'est possible de vous trouver quelques souvenirs authentiques, je me ferai un plaisir de vous les envoyer à votre adresse à Montréal, écrivit en octobre 1909 Prosper Vincent à David Ross McCord. Ce dernier était en correspondance avec plusieurs personnes pour obtenir, en don ou contre-paiement, des objets à exposer dans son nouveau musée de Montréal. Au 19e siècle, plusieurs individus et institutions commencèrent en effet à s'intéresser au patrimoine autochtone, pour sa qualité exotique d'abord, puis pour des fins d'études et pour préserver les traces de culture que l'on pensait alors vouées à disparaître. Les manuscrits écrits par des missionnaires en langue autochtone n'échappèrent pas à cet intérêt. Collectionnés entre autres par le Collège Sainte-Marie, fondé par les Jésuites à Montréal, par le Séminaire de Québec Université Laval ou encore par de riches collectionneurs, ces documents étaient mis en lumière pour un cercle restreint lors de certaines occasions. Par exemple, plusieurs manuscrits et des imprimés en langue sauvage, ainsi que des reliques indiennes, ont été exposés au 15e Congrès international des américanistes en septembre 1906 à Québec. Parmi ces manuscrits, un dictionnaire Huron, vendu quelques années auparavant par le notaire Wendat Paul Picard Tsahenhody, cousin de Prosper Vincent, au notaire et collectionneur de Québec Cyril Tessier, ainsi qu'un dictionnaire français Huron, donné par le même Picard en 1896 à l'Université Laval pour payer les frais de scolarité de son fils. Notons que ni Vincent ni Picard ne souhaitaient se départir de leur patrimoine. Par exemple, le premier refusa de donner une médaille venant du grand chef Nicolas Vincent Tsahenhody à McCord. Picard, quant à lui, refusa net de vendre ses manuscrits en Wendat à différents collectionneurs avant de devoir s'en départir, en dernier recours semble-t-il, à cause d'une situation financière difficile. Vous écoutez « Délit en série, comment des voleurs ont nourri la passion des collectionneurs », un texte de Fanny Dionne, paru dans Cap au Diamant, été 2022, numéro 150. Un exemple, le dictionnaire de Prosper Vincent. C'est donc, dans ce contexte particulier, que Samuel Miller a flairé la bonne affaire au Québec. Il faut dire qu'il jouissait sûrement d'une mauvaise réputation sur la côte est américaine depuis qu'il avait tenté de vendre en 1905 en Caroline du Nord une copie contrefaite de la Mecklenburg Declaration of Independence. Ce document aurait été publié dans un journal en mai 1775 lorsque les résidents du comté de Mecklenburg se sont déclarés peuple libre et indépendant, mais aucune copie originale n'a été sauvegardée. Si avérée, cette déclaration aurait précédé de plus d'un an la Déclaration d'indépendance des États-Unis. La véracité de la Mecklenburg Declaration of Independence a soulevé des débats au 19e siècle. Pour en revenir au journal retrouvé par Miller, des experts ont découvert la supercherie après analyse du document et ils ont publié leurs résultats. C'est probablement la raison pour laquelle Miller s'est déplacé plus au nord pour continuer ses affaires. Que l'Américain ait eu en tête de revendre le livre dès son prêt auprès de Vincent ne fait pas de doute. En effet, le 10 septembre 1909, à peine 8 jours après avoir obtenu le dictionnaire, Miller fit authentifier l'auteur présumé du manuscrit, le père jésuite Pierre Chaumonneau, à l'Université Laval, où étaient conservés d'autres documents en langues autochtones. Quelques mois plus tard, en février et avril 1910, on retrouve Miller et le dictionnaire de l'autre côté de l'Atlantique à une vente aux enchères par Potick & Simpson à Londres. Si Miller avait espéré que le voyage et les frais encourus en vaudraient la peine, il fut gravement déçu. En effet, les enchères ne montèrent pas beaucoup et il racheta son propre document pour 190 puis seulement 60 livres sterling. En effet, il semble y avoir eu assez peu d'intérêt en Europe plus généralement pour des documents en langues autochtones. Miller préféra alors revenir au Canada où l'intérêt pour ce type de documents était plus grand. Profitant peut-être de la mort de Prosper Vincent en 1915, le seul ayant connaissance des termes de l'emprunt accordé à l'Américain, ce dernier vendit le dictionnaire au notaire montréalais Victor Morin, ancien président de la Société historique de Montréal et de la Société Saint-Jean-Baptiste, chercheur en histoire du Canada, Victor Morin possédait une bibliothèque de plus de 10 000 volumes qui contenait, en plus de documents en langue autochtone, plusieurs livres sur l'histoire de la colonie, les Jésuites, les gouverneurs, l'Acadie, ainsi que des ouvrages anciens de Samuel de Champlain ou de Marc Lescarbot. Miller lui raconta qu'il avait acheté le document à Lorette. Pour preuve d'authenticité, afin probablement de ne pas répéter l'erreur de la Mecklenburg Declaration of Independence, l'Américain pouvait présenter une note d'authentification signée par Prosper Vincent sur le troisième plat du dictionnaire. Morin fut un peu surpris que les Wendat aient vendu des objets à un Américain inconnu, mais ne s'en formalisa pas outre mesure. Selon le catalogue de la bibliothèque du notaire, le dictionnaire français Wendat valait 6 000 $, probablement la somme qu'il a payée à Miller. Morin, pour sa part, conserva son glossaire français Huron quelques années avant de le vendre en 1931 aux enchères à New York, avec une partie de la bibliothèque, afin de faire face à la crise économique. C'est la John Carter Brown Library, au Rhode Island, qui s'en porta acquéreuse par un intermédiaire. Son bibliothécaire entreprit alors des recherches pour confirmer l'auteur du dictionnaire et comprendre un peu mieux comment Morin était entré en sa possession, mais jamais on ne soupçonna quoi que ce soit à propos de Miller. Ce dernier a donc bien réussi son larcin, qui lui a rapporté bien plus que les 50 $ mis en gage auprès de Vincent. Fraude et vol en série. Ce vol d'un objet du patrimoine autochtone n'est pas unique. En Ontario, vers 1850, le juge James V. Campbell a acheté à un autochtone, probablement Wyandot, une grammaire en Wendat Wyandot rédigée par le père jésuite Pierre Potier un siècle plus tôt. Le juge a écrit à un ami, Richard Elliott, que cette grammaire valait son poids en or, soulignant encore une fois la valeur de ses manuscrits. Avant sa mort en 1890, Campbell aurait prêté son manuscrit à un copiste canadien qui ne lui a jamais rendu. Selon Elliott, ce copiste serait un certain M. Prudhomme de Sandwich en Ontario. Ce dernier ne se cacha pas d'avoir la grammaire en sa possession. Il la prêta, en effet, à l'ethnologue américain James Filling pour une entrée de sa « Bibliography of the Iroquoian Languages » 1888. À la mort de Prudhomme, la grammaire n'a pas été retrouvée et on ne sait comment elle a fini par intégrer les archives des Jésuites à Montréal. Les colliers de wampum étaient d'autres items autochtones prisés des collectionneurs. L'anthropologue Margaret M. Brookchuck s'est, par exemple, plongée dans l'histoire d'un collier de wampum mis aux enchères par Sotheby's en 2009. Ce collier avait originellement été donné par les 5 nations Haudenosaunee à Kanesatake à la fin du XVIIe siècle. Depuis cette époque, un chef et gardien des wampum en avait toujours pris soin jusqu'à la mort de l'un d'entre eux en 1910. En attendant le choix d'un nouveau chef, les wampum ont été confiés à un proche qui les a plutôt vendus à un antiquaire. Ce dernier les a à son tour vendus à l'anthropologue américain Frank Speck, qui les a refilés à son ami Edward Sapir du Victoria Museum. Alors que les wampum perdus étaient recherchés, les deux amis firent tout pour entraver leur rapatriement. Il faut dire que depuis la fin des années 1800, les musées et antiquaires avaient commencé à collectionner des colliers de wampum Haudenosaunee, entraînant la disparition suspecte de plusieurs d'entre eux. Je vous rappelle que vous écoutez « Délits en série, comment des voleurs ont nourri la passion des collectionneurs », un texte de Fanny Dionne, paru dans Capot Diamant, été 2022, numéro 150. Intérêt canadien. Cet intérêt pour le patrimoine autochtone au 19e et 20e siècle s'inscrivait plus largement dans l'attention des collectionneurs et bibliophiles comme Victor Morin, Hospice Anthelme Vérot, l'abbé Louis-Édouard Bois pour l'histoire de la Nouvelle-France et du Canada. Là encore, répondant à cet intérêt, certaines personnes n'ont pas hésité à se procurer des documents intéressants de manière plus ou moins légale pour faire du profit. Dans une série d'articles publiés dans Le Devoir, le journaliste Sylvain Lombroso a ainsi mis en lumière le cas du Parisien Léo Lémarie. En marge de ses recherches sur les insectes puis sur la Nouvelle-France, il commença à voler des documents d'archives. Se rendant chez des notaires français à des fins de consultation, il en profita pour subtiliser quelques documents comme une procuration que Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal, avait envoyée à sa sœur Marguerite pour présider à la destinée de ses biens français. Une fois en possession des précieux documents, les maris trouvaient des collectionneurs intéressés par ces rares items. Le Français eut toutefois moins de chance que Miller. Il fut accusé et condamné en 1932 à 4 mois de prison pour vol de documents. Le contexte des 19e et 20e siècles a contribué à la dispersion des objets du patrimoine autochtone, en plus d'être un terrain fertile pour la circulation de documents sur l'histoire du Canada. Il est souvent difficile de retracer leur provenance, même si les transactions étaient légales. Les voleurs pouvaient recourir à divers stratagèmes pour se procurer de quoi satisfaire les collectionneurs, qui, comme Morin, pouvaient se faire mentir sur la provenance réelle de leurs achats. Néanmoins, comme le montre par exemple l'entrevue de Marie-Lou Pagé avec Jonathan Lainé, des procédures de rapatriement sont aujourd'hui possibles dans certains cas. Fanny Dionne détient un doctorat en histoire de l'Université McGill, réalise des contrats en histoire pour plusieurs institutions et va commencer un stage postdoctoral à l'Université du Québec à Montréal. Elle se spécialise dans l'étude des manuscrits missionnaires en langues autochtones. C'était « Délit en Syrie, comment des voleurs ont nourri la passion des collectionneurs », un texte de Fanny Dionne, paru dans Cap au Diamant, été 2022, numéro 150. Un étrange visiteur dans le Saint-Laurent. Un texte de Jean-Pierre Sylvestre, paru en mars 2023 dans le magazine Québec Science. Des poissons lunes, en cavale, se retrouvent parfois dans le Saint-Laurent. Qui sont-ils? L'été dernier, des passants ont découvert le cadavre d'un poisson lune gisant sur la plage de Métis-sur-Mer en Gaspésie. Imaginez leur surprise devant ce gros animal énigmatique. Le poisson-lune commun, ou mole, mola mola, n'est pas un poisson communément rencontré dans les eaux froides du Saint-Laurent. Et pour cause, c'est une espèce pélagique des mers tropicales, subtropicales et tempérées. Pour autant, ce poisson géant n'en est pas à sa première visite dans les eaux canadiennes. Les pêcheurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse en capturent à l'occasion, les premières observations ayant été rapportées dans les années 1940. Quelques échouages ont aussi été signalés dans le Bas-Saint-Laurent au fil des ans. Les observations semblent toutefois s'y multiplier. En 2015, la biologiste Lynn Morissette, chef d'une mission scientifique à bord du voilier Rotter Sand, observe par deux fois des poissons-lune nageant dans le Saint-Laurent, tandis qu'un individu s'échoue à trois pistoles. En 2017, des pêcheurs font état de plusieurs observations dans l'estuaire et le golfe. En août 2019, un poisson-lune de 2 mètres de long est observé par des naturalistes lors d'une patrouille dans les eaux côtières du parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé, en Gaspésie. En novembre 2020, une carcasse de 142 kilos est découverte sur une plage de l'île du Prince-Édouard. Laura Bourque, pathologiste vétérinaire du Réseau canadien pour la santé de la faune, a effectué une nécropsie et estimé que le poisson avait succombé à une hypothermie. Pour certains spécialistes, la présence accrue de ce poisson dans nos régions serait associée au réchauffement climatique. Ce dernier pourrait avoir un rôle à jouer, selon Martin Ouellette, vétérinaire pour le groupe de recherche Amphibia Nature. Mais une autre explication toute simple est probable. Les poissons-lunes doivent manger beaucoup de méduses et le Saint-Laurent semble riche en la matière à certaines périodes, surtout à la fin de l'été et en automne, soit exactement quand on a des observations. Le spécialiste remet par ailleurs en doute l'idée d'une hausse de la présence du poisson. Le réseautage est meilleur aujourd'hui, constate celui qui effectue un suivi de cette espèce depuis 2003. Avant, les observations restaient dans les chaumières. Il était difficile de faire de la photo et il n'y avait pas de numéro 1-800 pour déclarer un spécimen. Maintenant, tout le monde a un cellulaire dans sa poche pour faire une photo à diffuser sur les réseaux sociaux et notre ligne téléphonique est de plus en plus connue. Il n'est donc pas prêt à parler d'une hausse du poisson dans nos eaux. D'ailleurs, l'organisme a recensé 12 observations en 2022, ce qui est somme toute similaire à la moyenne des 20 dernières années. Le poisson-lune se laisse facilement emporter par des courants chauds dans des régions qui ne font pas partie de sa distribution habituelle, explique le professeur Ozam Tabeta, spécialiste des tétraodontidés, dont fait partie le poisson-lune et chercheur à l'Université des pêches de Shimonoseki au Japon. Les poissons qui dérivent sous nos latitudes pourraient aussi être des individus malades ou blessés, qui peinent à nager et qui sont poussés par les vagues sur les côtes. Et nous, pouvons-nous le manger? On dit que sa chair bouillie a une odeur infecte, rappelant celle de la colle forte. Avis aux gourmets que cette description ne rebute pas, il est déconseillé de consommer n'importe quelle partie de cet animal. En effet, comme l'explique le professeur Tabeta, ce poisson est étroitement apparenté au fugus, poisson-ballon et autres tétrodons, très connus pour leurs viscères qui sont les plus toxiques au monde. La chair du poisson-lune risquerait de provoquer des intoxications. De toute façon, il serait ardu de l'attraper. Le poisson-lune est difficile à harponner en raison de la couche cartilagineuse de 8 cm d'épaisseur qui se trouve sous sa peau. De plus, le puissant animal peut plonger à une profondeur de 180 mètres en moins d'une minute. De tous les poissons du Saint-Laurent, voire des eaux marines canadiennes, le poisson-lune reste l'une des créatures aquatiques les plus étranges. Qui sait, au cours des étés à venir, peut-être en rencontrerez-vous un en train de faire le plein de soleil à la surface de l'eau. La première fois qu'on le voit, ça donne la chair de poule, prévient Martin Ouellette. Il existe 6 espèces de poissons-lunes réparties dans toutes les mers et les océans tropicaux, subtropicaux et tempérés de la planète. L'espèce la plus répandue est le poisson-lune commun, Mola Mola. Ce poisson mesure en moyenne 1,8 mètre de long, 2,4 mètres d'envergure, en hauteur, c'est-à-dire de la pointe de la nageoire dorsale à la pointe de la nageoire ventrale, et peut peser jusqu'à 1 tonne. Les poissons-lunes sont les plus gros des actinophérygiens, poissons osseux. Le poisson-lune de Ramsay, Mola Alexandrini, est certainement le géant du genre, qui se prend parfois dans les filets des pêcheurs japonais. Le plus gros pêché au Japon mesurait 2,7 mètres de long et pesait 2,3 tonnes. En septembre 2022, un article scientifique révélait l'identité du plus gros poisson osseux du monde, un poisson-lune de Ramsay de plus de 3 mètres et de 2,7 tonnes, trouvé mort aux Açores. Le poisson-lune ressemble à un tronc ou à une grosse tête circulaire, munie sur le dessus d'une longue nageoire dorsale et en dessous d'une autre longue nageoire ventrale. À l'arrière de ce corps, la nageoire caudale est formée par une bande ondulée allant de haut en bas. Il adore les bains de soleil, et il n'est pas rare qu'on le voie couché à l'horizontale à la surface, pour se faire réchauffer. D'ailleurs, son nom anglais est Sunfish, le poisson-soleil. Une carcasse a été découverte sur une plage de Bonaventure en 2013. Amphibia Nature l'a mesurée. Le spécimen faisait 2,46 mètres de la nageoire ventrale à l'extrémité de la nageoire dorsale. C'était un étrange visiteur dans le Saint-Laurent. Un texte de Jean-Pierre Sylvestre paru en mars 2023 dans le magazine Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.musevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.